Radio de la Paix.
Dossier.
La Côte d'Ivoire, avec une production de 1 678 000 tonnes de caoutchouc en 2023, est le premier producteur en Afrique et troisième au plan mondial. Cette filière de l'EVA, bien qu'en pleine expansion, n'échappe pas aux défis liés à sa gestion, notamment les exportations frauduleuses. Ce dossier de Radio de la Paix vous propose d'entrer dans l'univers du caoutchouc pour avoir une idée élastique de cette richesse agricole. Présentation Kofi Benson. Introduit en Côte d'Ivoire dans les années 1950, l'EVA a rapidement trouvé des conditions de culture propices dans le pays. Comment se présente l'EVA et quels sont ses dérivés? Les réponses avec Kwaku Moïse, administrateur à l'AUPCN, l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel.
Le caoutchouc, à la base, est un produit humide qui, à travers des processus de découpage et de séchage, devient un caoutchouc sec qui est utilisé à 70% dans l'industrie de la pneumatique. À produire des pneus. Sauf que quand vous avez l'arbre, donc qui est l'EVA, il produit un caoutchouc qui est humide. Et ce caoutchouc-là contient autour de 40% d'eau. Ce caoutchouc-là, il peut être transformé donc localement après coagulation. Ou alors, ce coagulum-là peut être réexporté. Donc quand il est exporté, il sert à d'autres usines, donc dans d'autres pays, à pouvoir faire ce que nous faisons localement ici. Ce qu'on appelle caoutchouc techniquement spécifié, on dit TRCR, qui sert à la production de TRCR justement pour alimenter cette industrie de la pneumatique. Aujourd'hui, l'EVA peut donner plusieurs produits. Vous avez une grande partie de l'EVA qui est utilisée pour la production des gants, les gants médicaux. Vous avez la production d'équipements dans les véhicules, des accessoires. Vous avez la production des jouets des enfants. Les préservatifs sont produits à partir du caoutchouc. Localement, vous avez une usine qui produit les matelas. Donc, quand le caoutchouc doit être utilisé pour ses autres applications, il est récolté sous forme humide, ce qu'on appelle le latex.
L'EVA se trouve donc presque partout et la Côte d'Ivoire a connu un succès remarquable dans la production de l'EVA, donnant ainsi une satisfaction aux producteurs. L'aîné Sedo Yakuba est producteur.
L'EVA culture nourrit bien son homme, surtout qu'actuellement le prix est très bon. Nous sommes à 425, mais les tendances même annoncent 450 pour le mois de janvier. C'est une très bonne chose. Ce qu'il faut savoir, le prix de l'EVA même, c'est entre 300 et 350. Si on est à 400, on est à 500, c'est des prix exceptionnels. Donc, il faut croire en l'EVA culture, parce que l'EVA culture nourrit bien son homme.
Des atouts de l'EVA que présente Doumia Amadou, président de la Commission des affaires techniques et sociales à l'APROMAC, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire.
Un planteur d'EVA, c'est comme un fonctionnaire. Chaque année, c'est la culture agricole qui permet à son propriétaire d'avoir un revenu mensuel. Donc, une culture qui rapporte un revenu mensuel constant à son propriétaire, il fait de son propriétaire un fonctionnaire.
L'état de production des planteurs conditionne les activités des usiniers. Une situation que déplore Kwaku Moïse lorsque la production est faible.
Quand vous êtes un usinier, la première difficulté que vous avez, c'est de manquer de matières premières. Donc pour nous, c'est une difficulté essentielle qui va se refléter sur le fonctionnement de nos usines. Donc vous n'avez pas de matières premières, vous fermez l'usine.
Quelques années en arrière nous rappellent que les producteurs d'EVA ont délaissé leurs plantations au profit d'autres cultures agricoles. Une situation qui ne se produira plus en Croix, Baïdoua Luc, directeur exécutif de la FPHCI, la Fédération des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire.
Il n'y aura plus de revirement de situation. Les producteurs ne vont pas délaisser leurs plantations au profit d'autres cultures. Parce qu'on est à plus de 400 francs aujourd'hui. Ils auraient souhaité revivre la même situation où ils ont perçu 1000 francs. Mais à plus de 400 francs, c'est déjà très bon. Il faut noter que dans tous les cas, même à plus de 200 francs, l'activité est bonne. Ce qu'on demande aux producteurs, c'est de maîtriser ses charges, c'est-à-dire les dépenses courantes. Il faut les maîtriser, sinon quand il a plus de 200 francs, plus de 250 francs, l'activité est rentable.
Mieux, il faut accroître la production et occuper un bon rang. Telle est la vision de l'aîné Sedo Yakuba.
Ceux qui ont encore des portions de terre, il faut planter, il faut continuer à planter. Il y a encore beaucoup de zones en Côte d'Ivoire où on peut planter de l'EVA, comme à Touba, comme à Séguéla. C'est des zones où il y a encore assez de terre. Donc, il faut continuer à planter pour que demain, la Côte d'Ivoire soit deuxième. Si on continue de travailler comme le fait actuellement, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans même, la Côte d'Ivoire peut être à cette place de deuxième mondial.
Une place de deuxième mondial qui est pour l'heure inhibée par l'exportation frauduleuse déplorée par Kwaku Moïse, administrateur à l'AUPCN, l'association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel.
Les 111 000 tonnes jusqu'à fin novembre étaient pour la plupart des exportations frauduleuses vers le Ghana. C'est en cela que j'ai demandé qu'on puisse supporter le CHPH au niveau étatier, au niveau de l'administration locale, donc que ce soit à San Pedro ou dans les zones frontalières, pour qu'on puisse arrêter cette activité-là.
La filière EVA, à une période de sa production, a connu une autorisation d'exportation. Cependant, vu la forte demande nationale, cette autorisation a cédé sa place à l'interdiction. Les raisons de ce revirement avec Kwaku Moïse.
À partir de 2018, on a eu beaucoup d'exportations de fonds d'État parce que la production nationale, donc de caoutchouc naturel, surpassait largement les capacités de transformation. Donc, pour répondre aux besoins d'évacuation du caoutchouc qui était produit par nos parents planteurs, il était question d'autoriser que cette matière première-là puisse être exportée à l'État hors de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, les usiniers, avec le concours des différents ministères de tutelle, ont pu, avec l'accompagnement de l'État, avoir des conventions qui étaient des mesures incitatives à l'investissement, donc investir massivement dans la filière. Donc à partir du moment où ces investissements ont été faits, et aussi que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché national, la capacité de transformation des usiniers a fortement augmenté. Donc en 2024, par exemple, c'est plus de 2 millions de tonnes de capacité de transformation que nous avons pour une production estimée à environ 1 800 000 tonnes. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, l'activité d'exportation donc, qui avait été autorisée en 2018 doit totalement cesser. En novembre 2023, le conseil EVA palmier à huile, donc notre auditeur, de pouvoir interdire l'exportation des fonds de tasse, donc du caoutchouc humide. Et malheureusement, il y a encore des exportations, on va dire, frauduleuses qui partent du pays. Donc l'appel que nous lançons, c'était qu'on puisse intensifier la lutte, que ce soit au niveau des frontières terrestres, que ce soit au niveau des frontières maritimes, pour que l'exportation des fonds de tasse s'arrête. Parce qu'il y va de la pérennisation de l'activité des transformateurs qui ont beaucoup investi dans cette activité-là.
Les exportations frauduleuses sont source de nombreuses difficultés. Selon Anderson Ehouman, directeur d'exportation des productions forestières du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole.
Les sorties frauduleuses de l'EVA créent un problème des fonds de tasse, surtout, créent un problème d'équilibre entre la production et la transformation. La crainte, c'est que si on continue dans ce sens-là, les transformateurs n'auront pas de production pour transformer, donc ça va créer un déséquilibre à leur niveau, déséquilibre qui va se ressentir au niveau des producteurs parce qu'ils ne pourront pas respecter leur engagement vis-à-vis des acheteurs sur le marché international, ce qui va créer par conséquent un déficit de confiance, donc dégrader la confiance qu'ont ces producteurs par rapport à la production de la Côte d'Ivoire. Donc l'un dans l'autre, si ce phénomène paraît arranger les producteurs parce qu'il peut se débarrasser de sa production, il peut vendre sa production, mais à la longue, ça va créer un problème à ce niveau parce que la perte de confiance va faire que la production ne va pas sortir et on enrichit donc d'autres pays qui, quoique produisant moins de caoutchouc, vont en transformer plus et offrir plus de caoutchouc sur le marché international.
Face à l'exportation frauduleuse, une solution innovante est mise en jeu. Il s'agit du projet national de géoréférencement des plantations d'EVA, PNGPH, un outil essentiel selon Doumbia Hamadou, président de la Commission des affaires techniques et sociales à l'APROMAC, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire.
Le géoréférencement est une partie de la traçabilité. Quelle est l'origine du produit? C'est là que vient tout le sens du géoréférencement ou de la géolocalisation. La géolocalisation, c'est un point de la plantation que la géolocalisation pour savoir où est située la plantation. Mais le géoréférencement, c'est déterminer la superficie de la plantation dans l'espace agricole en Côte d'Ivoire. Les partenaires de l'Union européenne, qui sont nos clients principaux, disent qu'à partir de 2025, tout produit agricole venant sur leur territoire doit être tracé. Donc, on doit connaître l'origine de ces produits. Est-ce que ces produits-là ne sont pas produits dans une aire protégée? Est-ce que ce n'est pas produit dans une forêt classée? Si tel est le cas, ils sont réticents à prendre ces produits-là. D'où tout le sens de faire la géolocalisation, le géoréférencement pour déterminer l'origine de tous les produits, surtout les produits agricoles qui sortent de nos plantations.
La Côte d'Ivoire doit servir de modèle et offrir aux producteurs une meilleure organisation et limiter les pratiques frauduleuses. Doumbia Amadou.
Les partenaires au plan international attendent. C'est eux-mêmes qui nous ont donné les directives. Donc ils attendent que nous puissions aboutir à cela pour prendre comme exemple le cas de la Côte d'Ivoire qui a pu géoréférencer, qui a pu identifier l'ensemble de ses producteurs pour avoir des chiffres fiables dans le cadre de la maîtrise de la production au plan d'abord national en Côte d'Ivoire et ensuite au plan international. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui le troisième rang mondial et le premier rang africain. Donc un pays phare comme ça, avec des chiffres fiables, c'est réjouissant pour la communauté internationale.
Il est clair que la communauté internationale n'est pas seule à bénéficier des retombées du projet de référencement. Les producteurs également pourront se frotter les mains. Doumbia Amadou.
Qu'est-ce que le planteur gagne en s'inscrivant dans cette opération ? Un, ça lui permet d'identifier sa plantation, de savoir en quelle année la plantation a été créée, où est située la plantation. Ensuite, lui-même, ses identités sont connues pour éviter les vols plus tard de son produit par d'autres planteurs. Chaque plantation aura un code unique, ce qui fait que vous ne pouvez plus prendre la production, voler la production de votre voisin pour aller le livrer parce que l'origine de ces vols-là, elle n'est pas connue, donc aucun usinier ne va prendre cette production. Donc pour le planteur, c'est une sécurité pour sa production, c'est une sécurité pour son identification. C'est à partir de là que la centrale des risques va se mettre en place, qui va aller avec la carte d'identité du planteur, la carte des véhicules du planteur. Et avec ça, il peut, comme sa plantation est connue, identifiée, tracée, donc il peut avoir des prêts avec les banques.
En intégrant ces technologies avancées, la filière EVEA veut se donner les moyens d'être plus compétitif.
La filière EVEA gagne en crédibilité, de telle sorte que tous les producteurs seront identifiés en Côte d'Ivoire. On aura des chiffres statistiques fiables qui disent que oui, la production de la Côte d'Ivoire est de tant de tonnes, produit par tant d'hectares et les années de culture sont connues. Donc ça nous permettra de maîtriser à l'avenir nos projections au niveau de l'héberculture. Il y a un impact assez significatif pour l'économie ivoirienne parce que nos clients qui sont à l'extérieur disent quoi ? Un produit qui est tracé a plus de valeur ajoutée qu'un produit non tracé, non connu. Donc, à partir de ce moment, il y aura une valeur qui va venir s'ajouter au prix actuel qui va encore renchérir les chiffres d'affaires des opérateurs. Donc, l'État va engager des impôts à partir du moment où tout le système financier autour de l'agriculture sera maîtrisé, l'État gagne, l'économie ivoirienne gagne.
Tout le monde gagne et en premier les producteurs. Cependant, ces derniers doivent faire connaître leurs préoccupations pour un meilleur traitement. Baïdoua Luc, directeur exécutif de la FPHCI, Fédération des organisations professionnelles agricoles de la filière EVEA de Côte d'Ivoire.
Partout où on parle de l'EVEA, la FPHCI est présente pour défendre les intérêts des producteurs. Dans tous les villages, aujourd'hui nous avons 4000 délégués sur l'ensemble des zones de production. Donc dans chaque village où nous avons un pied d'EVEA, la fédération a un représentant. Il faut que les producteurs se rapprochent de leurs représentants dans le village pour remonter leurs réclamations. Et nous les attendons pour pouvoir les traiter dans les instances où il le faut.
Pour Randesson Ehouma, directeur des cultures d'exportation des productions forestières du FIRCA, une des solutions aux difficultés de la filière EVEA est le juste milieu entre la production et la transformation.
Il y a un équilibre entre la production et la transformation, de sorte que le producteur ne connaisse pas ce qu'il a connu d'un passé récent qui a amené à autoriser l'exploitation des fonds de tasse, à savoir que la transformation n'arrive pas à absorber toute sa production. Donc, dans la progression de la production, dans la progression des investissements au niveau des usines, il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre, de sorte que tous les acteurs y gagnent.
Depuis quelque temps, des plantations d'EVEA se développent dans certaines zones qui initialement n'enregistraient pas de plantations. Cette expansion de la zone de production d'EVEA renferme des atouts majeurs, selon Kwaku Moïse.
L'EVA est en train de nous pousser vers les limites qu'on avait nous-mêmes définies initialement. Au début, on disait que l'EVA produisait dans les zones où le cacao devait être produit, donc dans les zones essentiellement du sud. Mais au fur et à mesure que nous avançons, et là il faut saluer le travail qui est abattu par les instituts de recherche comme le CNRA, on constate qu'on a des variétés qui sont adaptées à des zones beaucoup plus sèches. Donc du coup, l'EVA permet aujourd'hui de repousser les limites, on va dire, de la déforestation pour aller dans des zones qui initialement sont des zones savanicoles, zones appelées chez nous des zones marginales. Donc développer des zones comme Séguéla, Touba, Bondoukou en EVA culture, ça permet pour nous aujourd'hui d'accroître nos capacités de transformation parce qu'on a beaucoup plus de production qui sera disponible et il va sans dire que nous accroissons aussi le nombre de personnes qui en bénéficient. Donc on enrichit la population. Aujourd'hui, nous sommes soumis aux contraintes de l'EUDR, donc qui est la régulation de l'Union européenne contre la déforestation. Donc justement, aller dans des zones qui ne sont pas des zones déforestées ou des zones de réserve, c'est salutaire pour nous tous parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec nos politiques de développement de la production, on s'assure que les zones que nous identifions pour nos cultures, donc des EVA, sont les zones qui ne sont pas soit dans des zones réservées, des zones susceptibles d'être déforestées.
Visiblement, la filière EVA a fait de grands pas et affiche de belles perspectives qui doivent être renforcées par des actions. Quelques propositions avec le producteur, l'Enesedo Yakuba.
Les années à venir, mon souhait, c'est qu'on fasse mieux. C'est-à-dire en construisant l'académie des métiers de l'EVA, en construisant le siège de la Proma qui va loger tous ces deux collèges. Ça serait une très bonne chose. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on souhaite pour notre filière. Que le prix continue de monter pour nous les producteurs afin qu'on continue de bien vivre de notre dû labeur, du fruit de notre travail.
Autre projection visant au développement de la filière avec Kwaku Moïse de l'AUPCN, l'association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel.
Le développement se situe à deux niveaux. On a le développement de la production et puis le développement de la capacité de transformation. Notre objectif, c'est de transformer 100% de ce qui est produit localement. Donc vous avez des usines qui sont installées localement, donc qui s'évertuent à augmenter les capacités pour pouvoir répondre aux besoins justement de la production. Le constat qui a été fait, c'est que les capacités des usines ont tellement augmenté qu'aujourd'hui, il y a un déficit de production. Donc le deuxième pan du développement concerne justement le développement de nouveaux vergers, le remplacement des anciens vergers. Mais au-delà de cela, nous avons des projets au niveau de la filière de sorte à valoriser notre caoutchouc, de sorte qu'il soit perçu comme un caoutchouc de bonne qualité. Je parle notamment de notre projet de labellisation, qui est un projet qui est conduit au niveau de la Promac, qui à terme devrait permettre à notre caoutchouc d'être reconnu internationalement comme un caoutchouc de qualité.
La quête de la qualité passe par la contribution de tous les acteurs. Ces derniers à travers une plateforme d'échange dénommée Journée de l'EVA pour son édition de 2024 se sont retrouvés à San Pedro. L'objectif de cette rencontre avec Anderson et Ouma, directeur des cultures d'exportation des productions forestières du FIRCA.
Fait le bilan des activités de toutes les familles, de tout ce qui s'est passé en gros au cours de l'année avec les différents secteurs et véhicules. D'écouter les uns les autres, d'échanger avec l'ensemble des acteurs, notamment les producteurs, sur leurs attentes, sur leurs difficultés, sur les perspectives dans le développement de la production et véhicules.
Pour Doumbia Amadou, président de la Commission des affaires techniques et sociales à la Promac, les journées de l'EVA ont le mérite de mettre tous les acteurs au même niveau d'information pour atteindre un même objectif, c'est-à-dire le développement de la filière.
Premièrement, informer l'ensemble des acteurs de la filière de cette opération de géoréférencement et que c'est capital pour l'avenir de la filière. Deuxièmement, pour échanger avec les différents acteurs sur le devenir même de la filière, tant il s'agit de l'exportation que de la fixation du prix du caoutchouc, etc. C'est des débats fructueux entre les différents acteurs afin qu'au sortir de ces ateliers, chacun soit suffisamment informé de la problématique et des problématiques qui existent au niveau de la filière.
La filière EVA, bien qu'en pleine croissance, doit encore relever plusieurs défis, dont celui de l'exportation frauduleuse. Le géoréférencement permettant une meilleure traçabilité pourrait jouer un rôle clé dans son avenir. Si ce projet est mis en œuvre avec succès, il pourrait marquer un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire, consolidant sa position de leader africain tout en assurant une gestion plus transparente et responsable de cette filière stratégique. Ce dossier a été réalisé et présenté par Kofi Benson avec la collaboration particulière de Guy-Romain Brissy, conseiller du secrétaire exécutif de l'APROBAC.
C'était
Radio de la Paix.
Dossier.